Mes frères et sœurs, bonjour. C'est une grâce, chaque dimanche, quand on se réunit avec un but, louer Dieu. Car si vous et moi, nous sommes ici, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et je me réjouis d'autant plus que, en écoutant nos frères et sœurs chanter, j'ai reçu cette conviction dans mon cœur ce matin à 4 heures. Le Seigneur m'a réveillé jusqu'à 6 heures et je lui disais, Seigneur, j'aurais bien voulu dormir. Et pourtant, il m'a dit de vous dire ce que vous venez de chanter depuis le début. Exactement. La grâce, la croix, la personne et l'œuvre de Jésus. C'est pas ça, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous l'avez entendu? Et n'ont-ils pas chanté un cantique avec ce mot « Quelle grâce !» C'est ça que vous avez chanté? La suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui croient que la grâce de Dieu est incomparable? Levez la main et dites « Pardon ?» C'est mieux. Alors, je voudrais vous inviter, dans la pensée de ce que nous avons entendu tout à l'heure, chanter, participer, je voudrais vous inviter justement à aller sur la montagne de Dieu. Il y a dans la Bible plusieurs montagnes. Nous avons celle du Sinaï, la loi. Puis nous avons celle du Golgotha, la mort de Jésus-Christ. Puis nous avons le mont des Oliviers, l'élévation de Jésus-Christ. Et nous allons remarquer dans ce passage, Romains 8, que je vous invite à ouvrir. Et si vous le voulez, on pourrait commencer notre lecture au verset 28. Vous allez découvrir quatre montagnes de Dieu qui sont réunies tout simplement par le mot « grâce ». Romains 8, 28. Je commence la lecture si vous le voulez bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Êtes-vous cela? D'accord. Êtes-vous cela? Êtes-vous cela? D'accord. Alors je continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et il les a aussi justifiés. Merci. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... Très bien. Alors que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Eh bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, et nous pouvons dire, mes frères et sœurs, quand on monte sur... La montagne, pas si une montagne, on peut descendre, mais quand on monte, on va de plus en plus haut. Nous sommes d'accord, de plus en plus haut. Et dans cette lecture que nous avons faite ici, nous trouvons quatre plus. Plus, plutôt plus, bien plus et infiniment plus. Car avec Jésus-Christ, c'est toujours plus. Avec Satan, c'est toujours moins. Mais avec Dieu, c'est plus que plus. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur ce texte qui nous appelle à découvrir que nous sommes non seulement des victorieux, mais des super victorieux, des conquérants victorieux, et que nous pouvons vivre aujourd'hui dans le monde avec deux éléments essentiels, le calme, la confiance, ou la tranquillité et la confiance. Mes frères et sœurs, quand nous nous sommes convertis, nous avons pu dire dans les eaux du baptême, « Quel beau jour, Seigneur, tu as pardonné mes péchés. Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Or, mes frères et sœurs, Jésus ne nous a pas trompés. Il nous a dit, heureux, mais votre foi va être attaquée. Bien sûr, qui n'a jamais été attaqué parmi nous veut bien se lever. Bon, il est attaqué par la timidité. Jésus a dit que notre foi allait être attaquée. Vous aurez, dit-il, des tribulations dans le monde. Il n'est pas écrit, vous aurez des félicitations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, mes frères et sœurs, car nous avons des ennemis terribles. Et vous allez m'aider à les découvrir. Quel est notre premier ennemi? Pardon? Je n'entends pas. Nous-mêmes. C'est vrai. Notre deuxième ennemi. Il y en a peut-être un deuxième, non? Le diable. Oui, d'accord. Puis un troisième ennemi. Oui, c'est dans nous-mêmes, ça. Je vais vous aider. Hein. C'est un ennemi dans lequel le Seigneur nous a dit, ne l'aimez pas. N'aimez pas le... Je croyais que vous alliez me dire, n'aimez pas le diable. N'aimez pas le monde. Regardez bien, il y a donc trois ennemis qui peuvent nous empêcher d'être vainqueurs. Le premier ennemi, vous avez dit, c'est vous-même. C'est nous-mêmes. Deuxième ennemi, vous avez dit, c'est le diable. Troisième ennemi, vous avez dit, voilà. Et ces trois ennemis, mes frères et sœurs, que nous rencontrons tous et toujours, sont, selon l'Écriture, totalement et définitivement vaincus. Et l'apôtre Paul dit, en ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardons donc la première chose, la première montagne. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu ? Qui les combattra? Et il ajoute, qui les condamnera, pardon. Et il ajoute, Christ est mort. Christ est mort pour qui? Pour chacun d'entre nous. Je vais aller plus loin. Il est mort pour accomplir notre salut, on l'a entendu chanter par nos frères et sœurs. Il est mort pour que nous soyons pardonnés. Il est mort donc à notre place. Il est donc plus que mort, il n'est pas mort pour lui, il est mort pour chacun d'entre nous. Donc il y a un plus dans la mort de Jésus-Christ. Bouddha est mort, Confucius est mort, Mahomet est mort. Mais Jésus-Christ, lui, est mort, mais ressuscité. Et ça, il faut le comprendre, le dire et l'affirmer. Et il a été, vous connaissez, puni de Dieu, frappé, humilié, il a pris ma place, la vôtre. Toute la colère de Dieu est tombée sur lui et les ennemis de Dieu, aujourd'hui, sont vaincus par la grâce du Seigneur. Alors, on va faire un petit test. Vous allez prêcher avec moi. Vous voulez bien? On va essayer? Chaque fois que je vous ferai une question, vous me répondrez par une phrase. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et voilà ce que le diable ne veut pas entendre. Christ est mort. Ils ont chanté les jeunes tout à l'heure, le dernier mot. Christ est mort. Dites-le voir. Dans le milieu, j'ai rien entendu. Oh là là. Il faut que ça résonne en enfer. Allons-y. Alors, je vais vous poser une question, vous allez me répondre. Oh là là. Il y a un décalage entre le zèle et le dynamisme de nos frères et sœurs. Et chacun qui s'endort paisiblement. Non, je vous pose la question. Allez-y, qui nous condamnera? D'accord. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Alors, quand, voyez-vous, quand le diable vient vers vous, pour vous accuser, pour vous reprocher votre passé, vous répondez Ça, il n'aime pas. On continue. Lorsque le monde essaye de s'opposer à vous et de vous faire tomber, vous répondez : quand mon cœur me condamne et essaye de m'humilier, je réponds : et Satan ferme sa bouche. Christ est mort. Voilà le mot que l'enfer a besoin d'entendre. Voilà ce que mon péché a besoin d'entendre. Christ est mort pour moi. Voilà ce que Satan veut, a besoin d'entendre. Christ est mort. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Jésus-Christ est mort. Et ce matin, quand nous avons pris la Sainte Seine, nous nous souvenons de la mort de Jésus. Elle est essentielle, mes frères et sœurs. Et ça, c'est la grâce infinie de Dieu. Qui accusera ? Mais au fait, qui peut nous accuser ? Le seul capable de nous accuser, c'est Dieu. Qui nous condamnera ? Le seul qui peut, puisse nous condamner, c'est Dieu. Et l'Écriture nous dit, alors, si Dieu ne nous condamne pas, si Dieu ne nous accuse pas, qui c'est qui va le faire ? Bien sûr, l'accusateur. Mais pour l'accusateur, je réponds, qui ? Très bien. Et je voudrais que durant cette semaine, tout ce que vous allez pouvoir entendre ou ressentir dans votre vie professionnelle, familiale, conjugale, peu importe, si vous entendez cette voix satanique essayer de vous accuser, de vous abaisser, de vous écraser, vous répondez « Christ est mort, Christ est mort, Christ est mort et je suis vainqueur !» La deuxième chose, parce qu'il est mort pour nos péchés, c'est bien. Mais regardez, l'Écriture va un petit peu plus loin. Christ est mort bien plus. Tiens, il est mort, mais quelque chose de plus. Bien plus. Qui est le bien plus ? Il est ressuscité. Nous ne sommes pas réunis autour d'un service organisé par les pompes funèbres évangéliques où on s'incline tous devant le cercueil de Jésus. Il n'est plus là-dedans. Il est ici au milieu de nous, comme un héros qui sauve et qui nous rend vainqueurs en toutes circonstances. Christ est mort, c'est vrai, mais bien plus. Voyez où le plus ? Le plus de la montagne, un peu plus haut. Un peu plus haut. Il est ressuscité. Essayons de nous poser cette question. Voyons, ressuscité. Mais au fait, l'apôtre Paul, quand il écrit dans 1 Corinthiens 15, 20, il dit « Maintenant, c'est le présent maintenant, Christ est ressuscité et ne mort plus. Ainsi, nous sommes réunis ce matin au nom de celui qui a vaincu la mort et qui est vivant. Ce n'est pas une autre personne que celle de Jésus, c'est un Jésus vivant qui est au milieu de nous ce matin. Et voilà pourquoi je dois lui offrir un culte vivant. » Merci. Bien plus, il est ressuscité. Et l'apôtre va plus loin, il dira, mais la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est ressuscité, il est vainqueur. Alors je ne peux pas être condamné, puisque je ne suis pas accusé. Comment voulez-vous que je sois accusé, puisque Christ est mort pour mes péchés ? Alors, cette voix-là, cette culpabilité-là, qui nous emmène à faire dire « Oh, tu sais, si tous les chrétiens de Saint-Étienne étaient comme toi, t'es un minable, t'es un pauvre, c'est pas prier, t'es rien du tout, t'es plein de complexes, t'es bourré de questions, tout tourne autour de toi. » Alors, mes frères et sœurs, ce matin, appuyez cette grande vérité. Christ est mort, Satan, tu le sais, mais je vais te dire une autre chose, Satan, que t'as besoin d'entendre, il est ressuscité. Ça lui ferme la bouche. Christ est mort, il est ressuscité. Et cela m'amène à regarder avec vous, frères et sœurs, la puissance de la résurrection. Quand vous lisez les évangiles, qu'est-ce qui vous touche le plus ? Ça a été chanté, hein ? La croix, non ? Qu'est-ce qui vous émeut le plus ? La croix. Qu'est-ce qui fait pleurer le pécheur quand il se convertit? Parce que j'y crois, à celui qui pleure sur ses péchés, c'est quand il considère que Christ est mort. Eh bien, mes frères et sœurs, je vais vous choquer. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire, alors donc je le fais. Si vous avez des problèmes, vous voyez ça avec lui là-haut. Mes frères et sœurs, à la croix, le Seigneur a pardonné nos péchés. Il est mort pour les effacer. Êtes-vous d'accord? Mais il y a plus de consolation dans la résurrection que dans la crucifixion. Je répète. On trouve plus de réconfort dans la résurrection que dans la crucifixion. Parce que le ressuscité a été crucifié. Et le crucifié est ressuscité. C'est là une parole formidable que nous avons dans les évangiles. Quels sont les premiers mots de Jésus quand il est ressuscité? Vous ne connaissez pas? À une femme. Pourquoi pleures-tu? À la croix, il n'a pas dit ça. Il a dit, Père, pardonne-leur. Elle efface nos péchés, la croix. Mais la résurrection nous console, mes frères et sœurs. Parce que si Christ est mort et resté mort, on serait mort. Mais par le fait qu'il est ressuscité, nous sommes justifiés auprès de Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Et ce matin, croyez bien que nous devons avoir une vision de la personne de Jésus-Christ, non dans un cercueil, non pendu sur une croix. Et les anges ont été obligés de dire, « Il n'est plus ici !» Il est ressuscité. Et pourtant, dans notre pays, en France, on représente Jésus comme un petit bébé dans une crèche à Bethléem ou comme un cadavre pendu sur la croix. Il n'est ni dans une crèche à Bethléem, ni sur la croix. Il est vivant. Il est vivant. Et Satan, je dois confesser que je crois puissamment dans la résurrection de Jésus de Nazareth. Christ est mort. Plus, il est ressuscité. Et c'est là qu'il va nous consoler. C'est là qu'il va participer à notre bonheur, parce que dans sa grâce infinie, il nous apporte la consolation. Mais ça va plus loin. On continue. Christ est mort. Christ est ressuscité. Question maintenant. Où est Christ? À la droite du Père. Alors on l'a vu sur la croix. On l'a vu ressuscité. Et ce matin, pendant que je vous parle, pendant que vous êtes assis, mes frères et sœurs, pendant qu'on est là ensemble, où est Jésus? Il est... Comment? C'est écrit, hein? Il est où? À la droite. Oui, c'est vrai, mais comment? Comment? Il est à la droite du Père. Oui, mais comment? Quelle est sa position? Il est... Dites-le, il est assis. Et être assis, ça signifie se reposer. Moi, je suis arrivé un peu juste et j'ai fait téléphoner parce que j'ai été arrêté par la gendarmerie nationale pour un excès de vitesse, paraît-il, et puis ça m'a pris 20 minutes. Si bien que pendant les chants, je sentais mes genoux fléchissant. Je dis, mon petit ami, reste assis. Les jeunes, quand ils auront fini de chanter, ils s'assoiront, mais ce sera debout. Donc, Seigneur, tu comprends les choses. T'es fatigué. Mais ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que la position de Jésus assise est la preuve qu'il a tout accompli. Parce qu'on s'assoit quand on a fini de travailler. Si vous travaillez, par exemple, dans une usine ou dans une industrie, et qu'au lieu de bosser, vous soyez assis, au lieu d'être debout, votre contremaître ou votre contremaîtresse dirait, alors, qu'est-ce que fait? La position assise, c'est une position de repos. C'est une position parce que tout est accompli. Mais au fait, quand il est mort sur la croix, quelle est sa dernière parole? Tout est accompli. Mes frères et sœurs, celui qui est assis à la droite de Dieu, il est assis parce que son travail est fini. Il est vainqueur, définitivement vainqueur. Il sera éternellement vainqueur. Et comme il est éternellement vainqueur, vous et moi, nous sommes éternellement vainqueurs. Il est assis. Tiens, tiens, moi j'aurais bien vu de vous. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, vous savez, dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait ce qu'on appelait des sacrificateurs, serviteurs. Et alors ils étaient devant l'autel d'airain, ils étaient devant la cuve, l'autel d'airain, devant la table des propositions. Et puis dans le lieu très saint, il y avait le chandelier, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait tout, sauf une chose qui manquait. Allez-y, question à 5 euros. Qu'est-ce qui manquait ? Je ne sais pas. Vous dites, monsieur Harou, c'est trop compliqué. On voit que vous êtes un vieux, vous êtes... Il faut nous laisser tranquille, paisible. Oui, oui, d'accord. Mais il faut peut-être regarder plus loin. Savez-vous ce qui manquait dans l'ancienne alliance, dans le temple, dans le tabernacle? Il y avait tout pour les serviteurs, tout sauf une chaise. Parce que les sacrifices n'étaient jamais finis. Mais si Jésus est assis, c'est parce que son sacrifice est fini, total, terminé, vainqueur et éternellement vainqueur. Voilà pourquoi il est assis près du Père. J'entends quelques voix qui disent « Vous oubliez ?» J'oublie rien. Sauf une fois, quand ses enfants sont persécutés, quand ses enfants sont attaqués par un nommé M. Saul de Tarse, il est écrit que Jésus l'a arrêté. Stop ! Quand Étienne a été arrêté, accusé, et qu'on avait de la colère. Étienne a dit, qu'est-ce qu'il a dit Étienne ? Je vois Jésus debout. Parce que quand un enfant de Dieu est attaqué, profondément attaqué, tourmenté, tribulation, Jésus ne reste pas assis, il ne peut pas rester assis, il se lève. Et la Bible dit, Dieu se lève et les ennemis sont vaincus. Il est assis dans la gloire. Il est assis à la droite. Là aussi, il y aurait quelque chose à dire. La droite. Hein? Non. Ça n'a rien à voir avec Zemmour et je ne sais plus quoi, moi. Non. Quand je dis la droite, dans le... Oui, mais enfin, vous ne pas se tromper. Moi, je me suis retrouvé en garde à vue avec Monsieur Copin dans un pays à l'époque... l'époque, comment dirais, d'ultra-gauche, quoi. Et on nous a arrêtés en disant, on vous a arrêté, messieurs, parce que vous êtes français. Pourquoi ? Parce que vous avez fait de la politique dans notre pays, c'est interdit. Ce copain, ouais, nous a regardé, il a fait de la politique. Il n'a pas parlé de politique ? Non, il n'a pas parlé de politique. Si. Vous avez dit que la richesse, le bonheur est arrivé quand Pierre a jeté son filet à droite. Oh, je me souviens que j'ai dit à l'inspecteur, ça c'est à droite, ce que vous dites là. Alors je n'y avais pas pensé, mes chers amis. C'est pour ça que je précise tout de suite. Hein. Il est à la droite du Père, c'est-à-dire à côté de la toute-puissance de Dieu. À côté de la puissance infinie de Dieu, il y a Jésus, assis et prêt à se lever. Si vous êtes dans la difficulté, ma sœur, mon frère, cette semaine, si tu es persécuté, attaqué, compris, mal compris, méprisé, eh bien Jésus ne te laisse pas, il se lève. Et les ennemis vont partir, crois-moi. Il faut avoir la vision d'un Jésus crucifié qui efface, d'un Jésus ressuscité qui console, d'un Jésus tout-puissant qui ne permet pas que ton pied chancelle. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Voilà pourquoi il faut adorer Jésus, le Fils des dieux vivants et vrais. Et je termine avec la quatrième montagne. Christ est mort. Christ est ressuscité. bien plus. Christ est à la droite de Dieu, beaucoup plus. Mais maintenant, je vais vous dire, infiniment plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, vous le voyez crucifié, vous le voyez ressuscité, vous le voyez assis. Quelle est la quatrième chose qu'il fait ? On l'a lu. Il intercède. Il intercède. Pour qui ? Vous le croyez ? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent dire « Moi, je sais que Jésus intercède pour moi. » 5. Non, est-ce que c'est spontané, hein, principe ? Alors, tout le reste, on va prier pour vous. Il est à la droite de Dieu. Et si, mes frères et sœurs, nous sommes là ce matin, avec tous les pépins peut-être que vous avez passés, toutes les épreuves que vous passez, peut-être un malade chez vous, une femme malade, un mari malade, un enfant malade, un chômage qui se menace, qui vous menace. Eh bien, mes frères et sœurs, croyez ceci, cette action de la grâce de Dieu, si vous êtes malgré tout là ce matin, alors que beaucoup auraient lâché, savez-vous si vous êtes là ce matin, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce aux prières de Jésus. Et c'est pour ça que je veux l'adorer avec vous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède, il se met dans le milieu. Il est à la droite de Dieu parce qu'en intercédant pour nous, il va nous donner la victoire. Il va nous donner la possibilité de vivre heureux. Je vais prendre un exemple terrible. Avant la croix, Jésus a passé par une épreuve terrible. Vous la connaissez ? C'est une réunion de prière avec des oliviers. On l'appelle Gethsémané. Et il est tellement dans un moment difficile que lui, le Fils de Dieu, va vers ses apôtres en leur disant « Veillez avec moi ». Et alors il en emmène trois. Il lutte, des gouttes de sueur semblables à des gouttes de sang sont sur son front. Il se relève, il va vers eux. Et les trouve endormis. Il repart prier. Il intercède, si tu veux, mon Seigneur, si c'était ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Il va vers ses apôtres. Il les trouve encore endormis. Et au lieu de leur taper dessus, parce que c'est tellement facile de taper sur les gens, il y a des gens qui aiment ça, hein. Plus vous tapez dessus, plus ils sont contents. Ah, au culte, oh là là, qu'est-ce qui m'a mis ? Moi, je me rappelle, j'étais à Narbonne, il y a une dame qui vient, une dame âgée qui vient. Oh, me dit, monsieur le pasteur, monsieur Larroux, c'était merveilleux ce que vous avez fait. J'ai amené ma belle-fille. Qu'est-ce qu'elle a pris ? Mais c'est rien, mes frères et sœurs. C'est que la troisième personne qui était derrière, beaucoup plus jeune, type moderne, tout à fait. Elle m'a dit, vous savez, monsieur le pasteur, je suis content d'être venu. J'étais content, moi. Parce que ma belle-mère était là, qu'est-ce qu'elle a pris ? Alors, je me demande, mes frères et sœurs, qui c'est qui a pris quelque chose, hein ? La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Revenez avec moi à Gethsémané. La première fois, il les trouve endormis. La deuxième fois, il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Regardez, il ne leur tape pas dessus, il leur dit. La chair est faible. Veillez et priez, car la chair est faible. Vous ne trouvez pas qu'il y a une parole de grâce là, au lieu de leur taper dessus en disant. Non. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Moi, j'y trouve une parole de grâce là. Mais après, la troisième parole, il repart prier Jésus, il repart prier, il intercède, il lutte encore, le sang coule, les gouttes de sang perlent de son front, il retourne vers eux une troisième fois, il les trouve endormis et il leur dit, reposez-vous maintenant, c'est terminé. C'est terminé pour nous, mais ce n'est pas terminé pour lui. Voyez-vous, c'est ça la grâce de Dieu. Le Seigneur veut que dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, nous soyons dans le repos. Il l'a dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous trouverez en moi du repos pour vos âmes. Ainsi, mes frères et sœurs, actuellement, dans ce monde, aujourd'hui, nous sommes spirituellement en guerre et en réalité en paix. Guerre et paix. On mène une guerre en étant la paix dans notre cœur. C'est pour ça qu'on est fort, car c'est dans le calme et la tranquillité qu'est notre force. Et le repos, nous l'avons grâce à la prière de Jésus. Et je voudrais terminer par cette parole, il intercède pour nous. Auprès de Dieu, l'Écriture va préciser qu'il intercède pour nous, afin que vous et moi, nous soyons délivrés. Il est mort, il est ressuscité, et à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Quand Jésus est monté au ciel, qu'a-t-il dit ? Je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et celui qui est à la droite de Dieu et qui est en train de prier pour chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, il est en train de prier pour chacun d'entre nous. Il a l'oreille de Dieu, puisqu'il est à la droite de Dieu. Mais dans le fond, quand il prie Dieu, il prie mon Père. Quand il prie pour moi, il prie pour son frère, puisqu'il a dit, vous êtes mes frères. Puisqu'il a dit, mon Père, votre Père. Ainsi, notre avocat est auprès de Dieu, du Père, il intercède. Pour nous, pour chacun d'entre nous, il intercède pour ses frères. Pouvons-nous avoir un meilleur avocat et un meilleur défenseur ? Il intercède pour nous auprès du Père et c'est à la raison pour laquelle, par sa grâce, nous sommes vainqueurs. Frères et sœurs, il y a un vieux cantique sur les ailes de la foi qui dit « Plus que vainqueur, tel est notre, plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. » C'est pas écrit comme ça ? Vous connaissez, non ? Non ? Vous connaissez pas ? Plus que vainqueur. Vous connaissez ça, plus que vainqueur ? Plus que vainqueur, telle est notre devise. Aidez-moi. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Oh là là. C'est le troisième âge qui chante ou quoi ? Le troisième âge, moi j'en ai 82 quand même. Hein ? Plus que vainqueur, tel est notre... Plus... Ah, vous n'avez pas été sélectionné pour être un cœur de louange. Hein ? Plus que vainqueur, tel est notre... Tel le vainqueur, plus que vainqueur... Bien que persécuté, merci ma sœur, car la victoire à la croix fut acquise. Par qui ? Par le Sauveur qui nous a rachetés. Vous pouvez chanter ça. Car la victoire à la croix fut acquise. Par le Sauveur qui nous a rachetés. Et maintenant, je peux chanter par ce qu'il vit. Je n'ai rien. C'est un tout petit peu plus moderne. Hein mes landes. Qu'est-ce qu'il fait entre ses mains ? Qu'est-ce qu'il tient ? Et alors ? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si vous le croyez, vous dites Amen. L'Écriture nous dit, virgule, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'adversaire, Satan, dont vous avez nommé, a été précipité, jeté dehors, dépouillé, absolument enlevé sur la croix du calvaire. Et je suis, par la grâce de Dieu, plus que vainqueur. C'est pour ça que je crois que le dernier mot de Dieu, ça se trouve dans la Bible, le dernier nom. Voulez-vous que je vous le donne, le dernier mot ? Christ est mort.
Ça fait partie des derniers. Ça. Christ est ressuscité. Et le dernier mot, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Mes frères et sœurs, puissions-nous le dire, le chanter et l'affirmer. Jésus revient. Le dernier mot du Seigneur à cette parole de l'apôtre Paul. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. Ma sœur, mon frère, veux-tu incliner ton front, s'il te plaît. Et maintenant que nous sommes recueillis, non, n'ayez pas peur, je ne veux pas faire d'appel. Non, non. Maintenant que nous sommes recueillis, pensons, frères et sœurs, à toutes les tribulations que vous et moi, nous avons subies cette semaine. Les combats, l'acharnement de l'adversaire qui revient continuellement. Et ce matin, le Seigneur vous dit ceci. Tu es vainqueur parce que Christ est mort. Tu es plus que vainqueur parce que Christ est ressuscité. Tu es infiniment vainqueur parce que Christ est à la droite de Dieu. Tu es glorieusement vainqueur parce qu'il prie pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.